Bonjour à chacun. Ça me fait plaisir d'être là avec vous ce matin. Voilà, pour différentes raisons, ben, ça me fait plaisir de pouvoir communiquer avec vous ce que Dieu a mis dans mon cœur. Ça me fait aussi plaisir parce qu'il y a deux mois, je ne pense pas que j'allais pouvoir parler du Seigneur comme ça, de partager un culte avec vous. Et Dieu a fait aussi des miracles et ça, je suis aussi reconnaissant. Et je suis aussi reconnaissant parce que, comme je l'avais dit dans ce temps d'épreuve à l'hôpital, j'ai vraiment ressenti de manière particulière l'amour du Seigneur. Et c'était comme si Dieu me portait, voilà, dans des moments difficiles. Et c'est vrai que dans les épreuves, on peut se rendre compte de la réalité de l'amour de Dieu. Que Dieu est quelqu'un qui est fiable. On peut vraiment lui faire confiance. Et moi, la question que j'aimerais vous poser avant au début de ce culte, est-ce que vous avez cette certitude dans votre cœur que réellement vous êtes aimé de Dieu? Est-ce que vous avez quelque chose qui est là, qui est dit, mais Dieu ne va jamais m'abandonner? Il y a quelque chose de profond dans mon cœur. Des fois, je ne suis pas tout à fait sûr qu'on a toujours ça, parce que des fois, on a des doutes. Hein. Des fois, il y a des doutes qui viennent, surtout quand on a commis une faute, quelque part. On ne se sent pas bien, on se sent accusé aussi par l'ennemi, par le diable. Et même là, est-ce que je prends la parole de Dieu, puis regarder ce que Dieu a à me dire, justement par rapport à ma condition devant le Seigneur? Et c'est dans ce sens-là que je pensais à ce qu'on m'a dit, Georges. Qu'est-ce que vous faites quand il y a un enfant qui... vous dites à un enfant, arrête de courir, tu vas tomber. Puis quand il tombe, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez dire, ah ben c'est bien fait, je te laisse là, voilà. C'est comme ça que vous faites? Ou alors vous allez le chercher. Il vous dit, ben je te relève et puis tu as compris la leçon peut-être. Hein, tu feras attention peut-être une prochaine fois. Mais... est-ce que vraiment on a dans ce cœur cette assurance profonde? Et j'aimerais lire avec vous un passage dans la première épître de Jean, au chapitre 1er. Jean au chapitre 1er, pardon, première épître de Jean au chapitre 4, à partir du verset 7. Je vais encore prier aussi avant. Seigneur, tu vois que nous allons parler de ton amour. Mais si ce n'est pas toi qui le révèle dans nos cœurs par ton esprit, nous, on ne peut pas comprendre ta parole, on a besoin d'une révélation de toi. Et j'aimerais que ce matin, tu connais nos cœurs à tous ici. Tu connais les gens qui sont des certitudes profondes, d'autres qui ont peut-être des doutes pour différentes raisons. Et Seigneur, j'aimerais que toi, par ton esprit, tu nous convainc de ta parole qui est la vérité. Et tu veux nous faire du bien parce que Seigneur, tu nous aimes profondément. Je suis convaincu. Mais tu veux qu'on puisse tous ici vivre des choses profondes avec toi. On l'a déjà vécu ce matin. On a réalisé que tu es présent. On a envie, Seigneur, d'être dans ta présence. Parce que, Seigneur, on est en repos dans ta présence. Alors, continue d'agir dans nos cœurs et permette que cette parole, tu ouvres notre cœur par cette parole, Seigneur, par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Donc, je lis dans la version du semeur. Dans Jean au chapitre 4, à partir du verset 7. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu, et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui nous ayons la vie. Et voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser par son sacrifice pour nos péchés sa colère contre nous. Mes chers amis, ou une traduction, mais bien aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est par son esprit qu'il nous a donné. Nous l'avons vu de nos yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement. D'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que le Christ a connue lui-même. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte ou la peur, car l'amour véritable ou parfait chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. D'ailleurs, le Christ lui-même nous a donné ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Ce passage m'interpelle quand je lis ces premiers versets. Mes chers amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. On le sait que c'est répété plusieurs fois dans la parole. Et je suis d'accord avec ça. Et celui qui aime est né de Dieu. Et il connaît Dieu. Donc on voit qu'il faut quelque chose de particulier, une intervention de Dieu pour l'aimer. Mais la suite me dérange un peu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est radical. On aime ou on n'aime pas ? On aime Dieu, on aime les frères et sœurs, ou on ne les aime pas, et on n'aime pas Dieu. Où est-ce qu'on se situe dans quelque chose comme ça ? Est-ce que des fois on n'est pas un peu repris ? De se dire, est-ce que moi, vraiment, j'ai cet amour de Dieu dans mon cœur ? Qu'est-ce qu'il fait cet amour ? Où est-ce qu'il en est avec moi ? Mais je pense qu'on a besoin de réaliser quelle est cette certitude que cet amour... C'est la suite qui va nous le dire. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser par son sacrifice pour nos péchés sa colère contre nous. Ce qui est important de réaliser, c'est quoi ? Qui est à l'origine de l'amour ? C'est Dieu qui est à l'origine de l'amour. Dieu est amour. Et on est incapable d'aimer si on n'a pas reçu l'amour de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut nous faire réfléchir, de se réaliser que c'est lui qui a commencé de nous aimer. Et c'est ça qui est rassurant. Pourquoi est-ce que c'est rassurant de réaliser que c'est Dieu qui nous aime ? Parce qu'en réalité, c'est lui qui a pris l'initiative. C'est Dieu qui a pris l'initiative de venir nous aimer. C'est Dieu qui a pris l'initiative avant la fondation du monde, qui nous aimait déjà. Et c'est lui qui a choisi, dans un sens, de venir nous réconcilier, justement, pour que nous, il nous donne cette capacité d'aimer. Parce que des fois, on se dit, mais c'est pas toujours facile d'aimer les autres. Surtout si on va plus loin, quand on parle non seulement d'aimer nos frères et sœurs, qui peut-être nous aiment ou ne nous aiment pas toujours, ou je sais pas, ou peut-être sont indifférents, mais en plus, des fois, d'aimer nos ennemis, hein, ça va encore plus loin. Est-ce que j'ai cette capacité, moi, de le faire ? Mais Dieu va te dire, mais la première chose, mettons les choses à leur place. Est-ce que tu as cette certitude que c'est moi qui ai commencé de t'aimer ? Que c'est moi qui ai pris l'initiative de t'aimer ? Dans Jean au chapitre 15, il a dit justement que, qu'est-ce qu'il a dit ? Je lis peut-être plusieurs versets. Voici quel est mon commandement, Jean 15, 12. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Et va même plus loin, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur, c'est mis, n'est pas au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller de porter du fruit et du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous demandez en mon nom. Voici ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. Qu'est-ce qui est rassurant ? C'est qui a pris l'initiative de l'amour ? C'est Dieu. Est-ce que vous êtes sûr que c'est Dieu qui a pris l'initiative, qui vous a choisi ? C'est lui qui a commencé le travail en vous. Et pourquoi est-ce qu'il l'a fait ? pourquoi il a commencé, c'était dans, en regardant dans Éphésiens, dans Éphésiens au chapitre 2, et je crois que c'est Blaise qui avait lu ce passage la semaine dernière. Éphésiens chapitre 2, les premiers versets, quand il dit, pourquoi ? Parce que c'est Dieu qui était obligé de prendre l'initiative, parce qu'il dit, voilà ce qu'il dit, autrefois vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous vous conformiez alors à votre manière de vivre, à celle de ce monde. Vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs, livrés à nous-mêmes, et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature destinés à subir la colère de Dieu, comme le reste des hommes. Mais Dieu, qui est riche en bonté, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble pour nous faire siéger ensemble dans le monde céleste. Dieu a dû prendre l'initiative, pour quelle raison ? Parce qu'en étant mort spirituellement, c'est-à-dire on n'était pas capable de comprendre, on n'était pas capable de comprendre ce que Dieu dit. Il fallait une intervention de Dieu dans nos vies. Nous, on n'est pas capable de comprendre les réalités de Dieu si ce n'est pas Dieu qui ouvre le cœur. Et c'est pour ça que c'est Dieu qui a pris l'initiative. Donc, quand on réalise que nous sommes enfants de Dieu, se rappeler que c'est Dieu qui a pris l'initiative et que c'est lui qui est venu pour nous adopter, pour faire de nous ses enfants. Alors, est-ce que ça peut nous encourager de réaliser que c'est lui qui a fait le pas ? C'est lui qui a commencé de venir jusqu'à nous. Et quand Dieu s'est révélé, et c'est ce qu'il dit dans le passage aussi, c'est dans Romains, au chapitre 8, c'est ce qu'il nous dit aussi, Romains 8, verset 15, il dit, « En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves pour vous ramener à la crainte. Vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'était par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». L'esprit lui-même témoignage avec notre esprit ou à notre esprit, nous témoignage ensemble que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. Puisque nous souffrons avec lui pour avoir part à sa gloire. » De réaliser que si c'est Dieu qui nous a choisis, c'est lui qui nous a adoptés pour ses enfants. Et la colère, Dieu est en colère contre l'être humain, depuis Adam et Ève, depuis la chute, Dieu est en colère contre toute personne, parce que la personne est rebelle contre Dieu. Mais cette colère, il l'a mis sur Jésus-Christ. Hein. Comme on l'a lu dans ce passage de Jean au chapitre 5, voici comment Dieu a démontré son amour, il a envoyé son Fils unique. Voici en quoi consiste l'amour, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés, aussi il a envoyé son Fils pour apaiser par son sacrifice nos péchés, sa colère contre nous. Dieu a apaisé, il peut ainsi nous inviter, il peut ainsi nous adopter, nous donner son esprit, au moment où nous on reconnaît. Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est simplement reconnaître que c'est vrai, que Dieu a raison, je crois ce qu'il dit, je crois à son amour, et je crois qu'il m'aime, mais je crois aussi que je ne peux pas m'approcher de lui sans que Jésus ait pris mon péché. Et quand on accepte dans sa vie Jésus-Christ, quand on reconnaît que Jésus est notre Seigneur et notre Maître, et qu'on dit, moi je veux changer de maître, moi je veux aujourd'hui vivre selon mon nouveau maître qui est Jésus-Christ, je vais être adopté par cette famille de Dieu. Nous sommes tous des personnes, quand on est enfant de Dieu, on est adopté. Hein. C'est-à-dire que Dieu nous considère, quoi, on était loin de lui et nous considère comme ses enfants. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. On entre dans sa famille, on devient enfant de Dieu, on reçoit par l'Esprit de Dieu dans nos cœurs qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et il y a cette assurance profonde qu'elle a dans notre cœur que le Seigneur, il est là, il m'a adopté. Et je pense que c'est ça qui fait que le monde autour de nous, il ne réalise pas cela. Il ne peut pas comprendre si ce n'est pas Dieu qui le révèle. Mais quand on est révélé, qu'est-ce qu'on peut dire à Dieu ? Qu'est-ce qu'on peut lui dire ? Mais Seigneur, je ne vais pas me laisser maintenant accuser par l'ennemi d'avoir des doutes sur qui tu es. Voilà ce que dit ta parole. C'est là que je suis. Tu es mon maître, tu es mon Seigneur. je suis devenu ton enfant et je peux être heureux, Seigneur, de voir maintenant que tu vas me donner, moi, la capacité d'aimer. Toi qui aimes tout le monde, toi qui aimes le monde entier, mais en même temps, cet amour, il peut le donner à ceux qui veulent le recevoir, hein, à ceux qui veulent être conduits par l'amour de Dieu. Mais je peux recevoir cet amour dans mon cœur. Mais ne nous laissons pas piéger en disant, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que j'ai moi-même cette certitude? C'est comme dans, un peu, dans le chapitre précédent, de Jean au chapitre 3. Mes chers amis, qui dit, voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà, voici pourquoi le monde ne connaît pas qui nous sommes, c'est qu'il n'a pas connu le Christ. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, et nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance se rendent eux-mêmes purs, comme le Christ lui-même est pur. Est-ce qu'il y a encore des fois des doutes? Et si quelqu'un ce matin avait des doutes par rapport à dire « Est-ce que je suis moi, un enfant de Dieu ? » Est-ce que réellement, je sais que j'ai été adopté par Jésus-Christ dans ma vie, par le Père ? On appelle Dieu le Père, mais peut-être tout le monde ne le reconnaît pas comme Père, mais est-ce que vous pouvez dire, vous, dans votre cœur, « Oui, je sais que Dieu est mon Père, parce que je suis membre de sa famille, et que c'est lui qui a fait l'intervention jusqu'à moi. » Donc si, par son amour, il est venu jusqu'à moi, il m'a donné son esprit, ce n'est pas pour me lâcher après coup, c'est pour me garder, me conduire jusque dans sa gloire. Dieu a commencé cette œuvre en nous, il va continuer de le faire. Et c'est ça qui peut nous encourager à se dire, est-ce qu'il y a cette certitude? Peut-être qu'il y a parmi nous quelqu'un qui a encore des doutes. Et s'il y a des doutes, il faut se dire, pourquoi j'ai des doutes? Est-ce que je ne pense pas que Dieu m'aime vraiment profondément? Est-ce que peut-être je ne suis pas sûr d'avoir été adopté? Alors dites au Seigneur, dites-lui, Seigneur, donne-moi cette assurance dans mon cœur, parce que c'est le Saint-Esprit qui vient en nous, et demandez peut-être à l'Esprit qui vous remplisse, qui vienne en vous, pour vous donner cette confirmation dans le cœur que vous êtes enfant de Dieu. Parce que c'est ce qu'il dit au verset 13, hein, je reviens dans Jean au chapitre 5, « Voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, c'est par son Esprit qu'il nous a donné. » Nous l'avons vu de nos yeux, et là c'est Jean qui parle, hein, de nos yeux, et nous en parlons en témoin, le Père a envoyé son Fils pour être le sauveur du monde. Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. C'est vraiment, et après il dit, celui qui demeure dans l'amour de Dieu, en Dieu, et Dieu demeure en lui. C'est très intéressant de voir dans ce passage de Jean, il y a cette idée, je demeure en lui et il demeure en moi. Je suis, il y a cette idée de demeurer, d'être en relation. L'amour, ça nous met en relation avec Dieu. L'amour, ça nous met en relation avec les uns les autres. L'amour, ce n'est pas juste quelque chose comme ça d'abstrait autour de nous, hein, mais c'est quelque chose qui se fait concrètement. Je suis en relation. Si je pense que j'aime quelqu'un, mais je ne suis pas en relation avec la personne, ben, je dis, où est l'amour? L'amour me met en relation avec Dieu. Et d'ailleurs, quand on lit dans la prière sacerdotale, avec Jean au chapitre 17, hein, quand il dit justement qu'il y a l'unité du Père et du Fils, on est en lui, et on vit cette unité. Et je pense que l'unité, elle est donnée par le Saint-Esprit, elle est là. Est-ce que moi, je suis en relation? Mais je pense que nous, on a une mauvaise idée peut-être avec nos familles. Je ne sais pas ce qu'on vit aujourd'hui dans les familles autour de nous. Mais est-ce qu'on est en relation les uns les autres? Est-ce qu'on prend le temps de manger ensemble? Est-ce qu'on prend le temps de vivre des choses ensemble? Ce n'est pas juste la famille, les gens sont toujours dispersés, chacun est là. Moi, je trouve que c'est terrible quand on voit des images de famille où tout le monde est avec son téléphone, là, dans une famille. Mais c'est terrible. C'est comme des jeunes, hein, pour des jeunes moins jeunes, plusieurs personnes sont ensemble. Merci. On voit qu'on ne vit plus les relations les uns les autres. Peut-être autrefois, il y avait le repas dominical, comme on disait, dans les familles, ou même dans des familles traditionnelle catholique. On invitait même le curé, là, c'était ça. Et il y avait tout un repas. Mais peut-être les gens, ils ne communiquaient peut-être pas beaucoup après coup. Hein. Mais pour Dieu, il y a de la relation. Et je pense que ça qui est important. On est en relation, on a envie d'être avec les gens qu'on aime, on a envie de passer du temps avec les personnes qui sont là. Alors, réfléchissons aussi pour nous, est-ce que moi, je suis réellement cette relation avec Dieu? Et je trouve que c'est quelque chose de très fort de réaliser. On a parlé de la présence de Dieu, on a chanté qu'il fait bon être dans la présence de Dieu. Et prendre le temps, quand on s'approche de Dieu, est-ce qu'on remercie le Seigneur, dit « Seigneur, merci ». Parce que je peux m'approcher de toi, je peux venir auprès de toi. Et c'est vrai, quand on s'approche de Dieu, peut-être on réalise la grandeur de Dieu, sa sainteté, on s'examine devant le Seigneur, il va nous montrer, quand on ouvre la parole, quand on demande, Dieu nous montre toujours s'il y a des choses qui sont là, entre nous et lui, qu'il faut apporter. Mais ça ne change pas ma relation avec le Seigneur. Parce que Dieu, il m'a déjà choisi, il m'a fait de moi son enfant. Et le sceau qu'il a mis de son esprit, il reste pour toujours. Il est là, inclus. C'est comme un timbre qu'il a mis quelque part pour me sceller pour l'éternité. C'est un avant-goût de ce que sera auprès de lui au ciel. Et qu'on puisse le vivre, réaliser cela. Mais en même temps, se dire, dans cette relation, il y a une sécurité. Il y a une sécurité qui est là parce que je peux revenir auprès du Seigneur. Et à ce moment-là, Dieu va me donner cet amour, je reçois cet amour de lui pour le donner aux autres. Le monde ne peut pas contrefaire l'amour de Dieu. Dieu est amour. Certes, heureusement qu'il y a de l'altruisme les uns les autres, on voit qu'il y a de l'amour, peut-être dans différentes familles. Hein. Heureusement que l'image de Dieu, elle n'est pas complètement ternie dans l'humanité, sinon ce serait insupportable sur la terre. Mais on réalise qu'il y a des gens, puis il y a même peut-être des gens qui... sans être chrétiens, qui en font peut-être beaucoup plus que des chrétiens, et qui nous reprennent, dans la limite, dans leur manière d'être, la manière de donner, la manière d'être généreux et autres. Et c'est ce qu'on peut réaliser. Mais cet amour profond qui se donne, il n'y a que l'amour de Dieu qui peut le faire. Et c'est ce que je continue de tendre, et ce que aussi pour vous aussi. Hein. Et la suite, là, justement, dans ce passage, il y a cette sécurité de réaliser que cet amour de Dieu qui nous a donné, il ne va jamais partir, hein. Je lis la suite, je relis dans le verset 15. « Si quelqu'un reconnaît que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu nous porte et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et voici pourquoi l'amour se manifeste pleinement parmi nous, ou parfaitement parmi nous. C'est pour que nous ayons une entière assurance au jour du jugement. D'autant plus que notre situation dans ce monde est celle que le Christ a connu lui-même. Dans l'amour, il n'y a pas de place pour la crainte, pas de place pour la peur, car l'amour véritable chasse toute crainte. En effet, la crainte suppose la perspective d'un châtiment. L'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. » Est-ce que des fois, il y a encore des doutes? Se dire, est-ce que de peur? L'amour parfait bannit la crainte. Si on découvre combien c'est reposant d'être en les mains de Dieu, si c'est Dieu qui nous a choisis, quel est le regard de Dieu sur nous? Il nous a choisis en connaissance de cause, vous êtes d'accord? Dieu, il voit ce qui nous sommes. Il se rend compte de nos limites. Il voit nos faiblesses. Il connaît nos faiblesses. Il connaît nos limites. Et simplement, il veut que sa grâce se manifeste en nous. Hein, l'apôtre Paul pouvait dire, ta grâce s'accomplit dans ma faiblesse. Et n'ayez pas honte devant Dieu, il vous connaît déjà ce que vous êtes. Il sait ce qu'il y a dans vos cœurs. Il sait ce qui, avant que vous n'ayez lui demander, Seigneur, où j'en suis, il sait déjà ce qu'il y a dans nos cœurs. Et il continue d'intervenir dans nos vies, de nous parler. Et c'est ce qu'il veut continuer de faire. Alors il y a cette garantie profonde que je vis dans cet amour et ne pas se laisser accuser par l'ennemi. Pourquoi? Parce que on a cet avocat et c'est ce qu'on a chanté ce chant si merveilleux là. Qui est inspiré du passage de Romains chapitre 8 aussi, qui nous dit, je vais relire le passage là, de Romains 8 au verset 33. Que dire de plus, verset 31? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous, comment ne nous donnerait-il pas tout aussi avec lui? Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus il est ressuscité, et il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Est-ce que vous êtes convaincus de ça? De savoir que le Seigneur, il est là, et ne nous laissons pas accuser. Le Seigneur, il peut nous montrer des fautes, il peut nous montrer des péchés. Qu'est-ce qui se passe quand on a commis une faute devant le Seigneur? Parce qu'il y a l'esprit en nous, l'esprit est triste. On ne se sent pas bien, vous êtes d'accord? J'ai une mauvaise pensée. Tout à l'heure, il y avait des petits problèmes avec la technique, on avait oublié Et tout d'un coup, ça m'a un petit peu irrité, moi. Je me dis, personne ne peut s'occuper de ce truc. Et on a oublié, il n'y a pas pensé. Puis après, je me dis, pourquoi tu te fais piéger par l'irritation? Mais ce n'est pas de Dieu, ça. Tu vas parler du Seigneur, de l'amour de Dieu, et tu te fais piéger par l'irritation. Mais qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut confesser son péché au Seigneur. Puis dis, écoute, Seigneur, je ne veux pas avoir ça dans ma tête. Ce n'est pas bon. Donc, quand le Seigneur nous parle, on est, comment dire, parce qu'on a de l'amour avec le Seigneur, mais on règle la chose tout de suite, on apporte tout de suite devant lui. Et c'est comme ça qu'on peut continuer de jouir de sa présence. Il est là, il n'est pas parti, mais on attriste le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous faites la même expérience, mais peut-être ça ne vous arrive jamais de pécher. Mais voilà, je parle à des gens, ceux qui se pensent. Mais quand je rencontre, c'est aussi de régler les choses tout de suite avec le Seigneur, d'en parler tout de suite. Où il y a des fois de l'amertume qui vient dans le cœur. Peut-être on attendait que quelqu'un il ait un peu plus d'amour pour nous. Peut-être il y a un souvenir qui vient puis ça nous fait mal. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Est-ce que je nourris ce souvenir qui me fait mal? L'autre jour, j'étais au téléphone avec quelqu'un qui ressassait toutes sortes de choses du passé. Je lui ai dit, mais est-ce qu'on ressasse des choses du passé comme ça? Le Seigneur, il est venu dans ma vie. Il a touché des choses. Je n'ai pas à revenir. Ou alors, si j'ai pour me souvenir, c'est pour me souvenir tout ce que Dieu a fait. Et dire, Seigneur, merci parce que toi, tu as fait ça. Et je pense qu'on lutte des fois avec des mauvais souvenirs. Mais des mauvais souvenirs, il faut les taire. Il faut les dire, non, je veux voir ce que Dieu a fait pour moi. Et d'avoir quelque chose. Non, pas, c'est pas du positivisme, mais c'est de voir ce que le Seigneur fait au fond de mon cœur. Et vous verrez que c'est de réagir beaucoup plus rapidement. Parce qu'on se laisse accuser par l'ennemi. L'ennemi, il nous tente, il nous fait tomber dans le péché. Puis après, on s'en veut parce que voilà, je suis chrétien, puis j'ai encore cette mauvaise pensée, j'ai encore eu cette mauvaise attitude, j'ai pensé cette mauvaise chose de quelqu'un. Et puis on est là, à la place de dire, Seigneur, non. Mais non, je viens vers toi, je viens te demander pardon. Si je dois régler quelque chose avec une personne, tu vas me montrer aussi. Mais je ne veux pas garder cette amertume dans mon cœur parce que ça m'empoisonne. Et je ne veux pas me laisser surtout accuser par l'ennemi. Pourquoi? J'ai un avocat. Il est là, il a déjà payé. Et qu'est-ce que fait Jésus? Quand il vient, il est là avec les mains qui sont là devant, avec ses mains qui étaient percées. Il est là. Il sera là encore toute l'éternité. L'agneau, quand on voit dans la vision dans l'Apocalypse, on voit le Seigneur qui est là. Et qui sera toujours l'agneau immolé. Moi, ça me surprend, on a l'image de l'agneau immolé. Et aujourd'hui, on doit prendre la Sainte Cène pour se rappeler, parce qu'on a besoin de se rappeler ce que Jésus a fait. Mais se rappeler, nous, tous les jours. Mais tous les jours, on peut dire, Seigneur, tu es là. Le trône de la grâce, il est toujours ouvert. Il n'est pas fermé. Je peux m'approcher. Et moi, ce serait bête de ne pas jouir tout de suite de ton pardon. Et Dieu veut nous redonner cette joie profonde dans notre cœur, pour qu'on puisse vivre dans cette liberté du Seigneur. Et après, qu'est-ce qui se passe quand on aime le Seigneur? On a envie de lui plaire. Hein? On a envie de chercher le bien. On a envie de vivre pour sa gloire, sa gloire. Mais son amour, lui, ne va pas nous quitter. Et c'est ce qu'affirme cette parole. Et je pense que vous devez relire beaucoup ce passage-là de Romains 8. Déjà, premièrement, que Dieu nous a adoptés. On est ses enfants. Ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui est venu nous chercher, c'est lui qui est venu là. Et après, qu'est-ce qu'il dit à la fin du passage? Mais j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu qui nous a témoigné en Jésus-Christ. Alors, est-ce que je vis cette dimension de l'amour de Dieu? Est-ce que je vis dans ce repos? Pour moi, le repos de Dieu, l'amour de Dieu, c'est du repos. Il a un regard bienveillant sur moi, c'est ce que je suis. Certes, j'ai fait une faute, quand il y a quelque chose, j'attriste, mais je peux régler tout de suite le problème. si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Des fois, on a besoin d'un témoin, parce que peut-être, des fois, il y a des luttes dans certains domaines, on a besoin peut-être de prier avec quelqu'un pour qu'il puisse attester. J'ai entendu ta confession et j'atteste aussi, pour pas que l'ennemi nous accuse. Mais ne nous laissons pas accuser, parce que je vois trop de chrétiens qui sont toujours en train de... On est fébrile. Je n'ai pas fébrile. Quand je suis en communion avec Dieu, puis que cette communion, elle s'estompe, je le sens tout de suite, hein. Quand je suis dans la joie avec Dieu, si cette joie, elle est prise par un souci, par quelque chose, je me rends compte tout de suite. Mais c'est de ne pas rester comme ça. Je vois trop de personnes, on se rend compte, et moi aussi, je me rends compte que trop souvent, je ressasse des choses, et je dis, mais je ne vais pas ressasser des choses comme ça. Que Seigneur, ma vie, elle est là au pied de la croix, quand je dépose un fardeau devant toi, je sais que tu as déjà purifié, tu as déjà pardonné, et je peux jouir simplement de dire merci de ta présence, merci de ton pardon, merci de la grâce que tu me donnes. Et moi, je trouve que c'est quelque chose de beau, quoi. Et j'encourage chacun à vivre cela. C'est normal qu'il y ait des luttes. C'est normal qu'on est encore sur cette terre. Notre corps, il n'est pas complètement transformé. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il disait ? Misérable que je suis, ce corps, j'aimerais m'en débarrasser. Mais pour s'en débarrasser, on est obligé de mourir. On sera obligé parce que, voilà, ce corps, il ne va pas aller au ciel. Hein. Vous êtes d'accord, votre corps ? Dieu devra trôner un nouveau corps, transformer nos vies. Et c'est ça qu'il veut faire dans nos cœurs et dans nos vies pour chacun de nous. Alors, mais il y a aussi un autre enjeu, je pense, qui doit nous encourager à régler les choses. C'est comme c'est au chapitre, c'est toujours dans le passage là de Jean, au chapitre 5, au chapitre 4, quand il dit, mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Pourquoi c'est important de nous aimer, de laisser plutôt l'amour de Dieu nous remplir? Parce que c'est ça, c'est la seule manière que Dieu a prouvé au monde qu'il existe. Les gens ne peuvent pas voir Dieu. Il dit Dieu, on ne le voit pas, personne ne l'a vu, Dieu est esprit. Mais si on voit l'esprit se manifester dans les cœurs des gens, dans l'amour des uns des autres, et l'amour, ce n'est pas juste des mots. Hein. Vous connaissez le passage, c'est le chapitre 3, qui dit « Voici comment nous savons que c'est d'aimer Dieu. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, nous devons aussi donner notre vie pour nos frères. Si quelqu'un voit un homme riche, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que votre amour ne se limite pas à des discours et des belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. » Donc on se rend compte que l'amour, c'est quelque chose de pratique. Puisque Dieu me demande à donner notre vie, qu'est-ce que je fais? Peut-être c'est donner mon temps, c'est être disponible, la manière dont Dieu. C'est aussi demander à Dieu d'entrer dans ses œuvres qu'il a préparées pour nous. Hein. Voilà, si chaque matin, chaque jour, je dis, Seigneur, aujourd'hui, cette journée, elle t'appartient, je vais vivre pour toi, alors tu vas me montrer comment je peux manifester mon amour pour des frères et sœurs. Peut-être ce sera une fois appeler quelqu'un, ce sera peut-être, oui, j'ai entendu qu'il y avait ça, je vais prier pour toi. Peut-être prendre un rendez-vous, je sais, peu importe de quelle manière. Peut-être être attentif à un besoin matériel de la personne, mais laisser le Seigneur agir. Et c'est pour ça que il y a un cadeau que Dieu nous a fait dans cette unité de sa présence, de cette famille, que c'est quelque chose qu'on doit vraiment veiller les uns sur les autres pour garder ce cadeau de la famille de Dieu. Parce que on ne va pas le vilipender cela. Et on va dire, Seigneur, tu nous as fait ce cadeau, on va le développer, on va s'encourager les uns les autres, parce que nous sommes de tes enfants. Quand on dit que tu es notre Père, c'est toi qui nous unis. C'est vrai qu'on a peut-être, nous, des images de famille plutôt déglinguées, comme je ne sais pas comment il faut dire ça, mais dans notre tête, et ce qu'on a vécu, hein, ne serait-ce que peut-être appeler quelqu'un Père, Dieu, on n'a pas une bonne image de ce qui est notre Père. Mais quand on laisse le Seigneur nous sonder, nous dire les choses, alors on peut trouver cette sécurité et dire que Seigneur, toi, tu es vraiment... Comme dit, c'est un passage, je crois que c'est dans Ésaïe, quand il dit, si une mère ne va jamais abandonner l'enfant, le nourrisson qu'elle allait. Mais même si elle le faisait, malheureusement, ça arrive. Il y a même des mamans qui ont laissé leur enfant dans la voiture ces derniers jours, je ne sais plus, j'ai entendu ça... peut-être elle a oublié, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est grave quand même. Mais même si une mère laissait abandonner son enfant qu'elle allait, moi je ne t'abandonnerai jamais. Et ça, que ça doit nous aider, ça doit nous encourager. Dieu, il ne va jamais... Mais redisons-le au Seigneur. Merci, parce que tu m'aimes comme je suis. Merci, parce que c'est vrai, tu vas m'aider à progresser dans ma vie avec toi, à progresser dans... pour progresser avec le Seigneur, ce n'est pas... Oui, on pourrait dire qu'on voudrait moins pécher, on ne voudrait plus pécher du tout, mais c'est surtout de vivre dans cette grâce et de tous les jours régler constamment devant lui quand il y a quelque chose. Et chaque fois que je m'approche de Dieu, je peux dire, Seigneur, merci, je m'approche de toi, mais je suis conscient de ce que je suis, mais je suis conscient que je vis aussi par ta grâce et conscient pour tout ce que tu as fait pour moi, et je vais être reconnaissant de tout ce que tu es pour moi. J'aimerais terminer en lisant une petite histoire. Je retrouve là. C'était quand il y a, dans les années, je ne sais plus exactement, les années 70 peut-être, 60-70, quand il y avait la guerre au Liban, il y a eu plusieurs fois des guerres, mais là il y a une particulièrement où Beyrouth était complètement, il y avait des tirs partout. Et voilà ce que quelqu'un a écrit ici. C'était quelqu'un qui a vécu ces moments-là. Il dit « En vérité, je vous le dis, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » C'était le début du mois de juin. La guerre dans notre pays venait d'éclater. Je devais me rendre en ville pour affaires et je décidai d'emmener mon fils de 5 ans avec moi. Tout à coup, une fusillade éclata. Les balles sifflèrent à nos oreilles. Les gens furent pris de panique et s'enfuirent à toutes jambes vers des abris. Pour ma part, j'essayais de rester calme. Je ne voulais pas effrayer mon fils et je priais dans mon cœur que Dieu nous couvre de sa protection. Lorsqu'après la tempête, tout revient calme, j'interrogeais mon fils pour m'assurer que tout allait bien. « Yves, est-ce que ça va? Est-ce que tu as vu ce qui vient de se produire ?»« Oui, papa, répondit-il, les gens essayaient de se tuer. » « As-tu eu peur ?» lui demandai-je. « Bien sûr que non, répondit-il, puisque je serrais ta main. » Quelle confiance, comme si ma main pouvait le protéger des balles. Aujourd'hui, 16 ans plus tard, la guerre fait toujours rage. Je n'ai jamais oublié ces mots tout simples prononcés par mon fils. Il me rappelle toujours que si je mets ma main dans celle de mon père, il n'a aucune raison de me laisser envahir par la panique. J'ai trouvé que c'était une expérience intéressante. Ce monsieur, c'est un cousin. J'avais des cousins que... Ma mère avait un cousin germain qui était une cousine qui s'était mariée avec un Libanais. Il s'occupait des maisons de la Bible là-bas au Liban. Et je dis, mais c'est ça. Est-ce que moi, j'ai cette sécurité avec le Seigneur? Est-ce que j'ai... Quand je dis père, est-ce que je suis conscient que c'est mon père qui m'a adopté? Merci. Chaque fois que vous priez, dites merci Seigneur. Dites dans votre prière, merci Seigneur parce que tu m'as adopté. Merci Seigneur parce que je suis ton enfant pour toujours. Tu as scellé, et comme le dit dans le chant, l'avocat, mes mains sont, comme je crois que c'est un passage, de, je ne sais plus de quel prophète, là, mais tes noms sont gravés sur mes mains. Voilà. Et est-ce que j'ai cette assurance profonde que le Seigneur ne va jamais m'abandonner? Et il a dit que celui qui a commencé en vous la bonne œuvre l'amènera parfaitement à Jésus-Christ. On est en devenir. On aimerait nous que tout soit réglé d'un jour à l'autre. Mais Dieu veut qu'on reste avant tout dans sa dépendance. Et je suis convaincu, quand on est sur cette terre, on aura des choses à apprendre du Seigneur. Il y aura des tempêtes, il y aura des luttes. D'ailleurs, c'est dans Hébreux, ce qu'il dit. Quand on est peut-être des fois, on n'a pas bien compris la leçon, peut-être des fois Dieu nous a donné des épreuves pour nous affiner, pour nous modeler, pour être toujours plus à son image. Et c'est ce qu'il va faire. Mais comme le dit dans Jean ici, on a vu que quand on verra le Seigneur, on le verra face à face. Et ce sera là, on pourra voir dans la gloire. Alors restons comme ça. Et si quelqu'un ce matin avait des doutes encore pour appartenir au Seigneur, qu'il puisse vraiment régler ça devant Dieu. Dans votre cœur, peut-être en rentrant chez vous, dites au Seigneur, mais moi j'ai encore des doutes. Allez, peut-être prie aussi avec quelqu'un. Moi j'ai encore des doutes. Des fois j'ai des doutes que j'appartiens vraiment au Seigneur. Ce n'est pas parce qu'il y a des luttes avec le péché que Dieu n'est pas là. Mais peut-être vous n'avez jamais soumis à Dieu. Peut-être qu'il y a des gens qui acceptent, qui acceptent simplement les principes de Dieu. Mais s'il n'y a pas quelque chose dans leur cœur, il n'y a pas une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance, c'est une certitude que le Saint-Esprit, il est là dans mon cœur. que j'ai laissé et que je sais que je suis enfant de Dieu et que j'ai le sceau de l'Esprit pour jusque dans l'éternité. J'ai les arts de l'Esprit. Et c'est ce que Dieu veut affirmer dans nos cœurs. Et si vous avez ces doutes, alors dites au Seigneur, aujourd'hui, adopte-moi comme ton enfant. Mais se laisser adopter par Dieu, c'est entrer dans sa famille, c'est se laisser prendre les principes de Dieu, c'est se repentir et dire, Seigneur, maintenant, je vais me soumettre à tes principes, à ce que toi, tu dis dans ta parole. Mais si, en tant qu'enfant de Dieu, on a trop souvent l'occasion de se laisser accuser par l'ennemi, par le diable, parce qu'il nous accuse, parce que tu vois, tu es encore un chrétien, tu n'es pas un bon chrétien, etc. Faites-en le taire. Parle-en tout de suite au Seigneur. Parce que le Seigneur, il ne va pas nous accuser. Le Seigneur, il va nous montrer notre faute, il va nous attrister. Quand il y a une accusation, ça ne vient pas du diable, ça vient que du diable. Le Seigneur, lui, il est triste, c'est vrai. Mais quand on lui demande pardon, on retrouve cette joie de sa présence. Et on a besoin d'être restauré dans notre être intérieur. Alors, j'aimerais terminer. Il y a une prière que j'aime beaucoup, qui est dans la parole, qui est dans Éphésiens, au chapitre 3, que j'aimerais lire avec vous, parce que c'est ma prière pour vous, mais aussi pour moi. Éphésiens, au chapitre 3. À partir du verset 14, Éphésiens 3, 14. Écoutez bien. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père de qui dépendent d'un modèle toutes les familles des cieux et de la terre. Je lui demande qu'il vous accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, tous les saints, combien l'amour du Christ est large, long, élevé, profond. Il y a toutes les dimensions là. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut connaître. Et vous en serez ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et même pensons. À lui soit la gloire dans l'Église. C'est intéressant, dans l'Église, hein, parce que c'est là qu'on va voir l'amour de Dieu. En Jésus-Christ, pour toutes les générations et pour l'éternité. Amen. Vous vous rendez compte? Moi, je prie pour moi, mais je prie pour vous. Hein. J'ai vraiment envie que vous soyez enracinés et fondés dans cet amour. Que ce soit l'amour de Dieu qui nous garde. L'amour de Dieu qui n'est pas là pour nous juger, mais qui est là pour nous purifier, pour nous nettoyer, pour où on se sent bien devant le Seigneur. Alors, ne nous laissons pas accuser. Dire, Seigneur, merci de ce que tu es pour moi. Mais j'aimerais que cet amour, il grandisse. Il grandisse pour qu'il y ait une bénédiction pour les autres, une bénédiction pour ceux qui m'entourent. Pour les non-chrétiens, ils ont besoin d'amour aussi. Ils ne connaissent pas l'amour de Dieu. Et nous, on peut les aimer. Ceux qui sont au travail avec nous, qui nous énervent un peu de temps en temps et tout ça. Est-ce qu'on dit, Seigneur, je veux que tu révèles cet amour à d'autres. Alors, continue de me remplir. Et je suis convaincu que c'est la parole de Dieu. Et que vous puissiez vivre. Je trouve qu'on ne vit pas à la mesure que Dieu veut nous faire vivre. On est trop préoccupé par les affaires de ce monde, par les soucis, par tout ce qui se passe. On est dans ce monde, on ne peut pas le quitter. Mais est-ce qu'on se laisse ressourcer par l'amour de Dieu et qu'on puisse le faire et le vivre ensemble? Et prions les uns pour les autres pour que cet amour qu'il nous donne, on ait envie de le donner à d'autres. Et vous voyez, quand il y a de l'eau abondante, quand il y a qui se coule, on est à la source et elle se coule partout. Alors laissons cette source animer notre cœur par son esprit. C'est vrai, Seigneur, tu nous connais tous ici. J'étais encore te prier, Seigneur, s'il y a quelqu'un, si le matin avait encore des doutes, qu'il soit vraiment ton enfant, alors qu'il s'approche de toi honnêtement, qu'il reconnaisse ce qu'il est et qu'il dit, mais j'ai besoin de ta grâce. Alors Seigneur, que tu veux, je suis convaincu ce matin que tu as des gens que tu vas adopter, que toi tu vas adopter des personnes, alors qu'ils puissent se laisser remplir de toi, de ton esprit. Oui, moi je vais être adopté de Dieu, je vais entrer dans sa famille, qu'ils puissent simplement reconnaître ce qu'ils ont besoin de toi, que sans toi ils ne peuvent rien faire, que sans toi ils sont sales, ils ont besoin d'une puissance de Dieu pour purifier leur cœur et leur vie. Alors Seigneur, tu les invites, alors qu'ils puissent te dire oui. Mais en tant que tes enfants qui sommes ici, Seigneur, trop souvent on s'est malmené par l'ennemi. qui veut nous paralyser parce que, Seigneur, on ne vit pas assez dans ce repos de ta présence. Alors, Seigneur, merci parce que tu nous invites à nous réjouir en toi. Parce que, Seigneur, cet amour, moi j'ai l'impression, j'en ai goûté un peu, mais je crois que tu vas en donner plus. Parce que, Seigneur, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu d'un regard miséricorde. Et chaque fois qu'il y a quelque chose, on peut dire, non, Satan, moi j'ai mon avocat. Et là, il connaît, il m'aime comme je suis, mais il veut simplement que je fasse le nettoyage, comme on entretient tous les jours devant le Seigneur. Or, toi, Seigneur, je veux te dire merci, parce que c'est toi qui parles dans nos cœurs, c'est toi qui nous aimes, et c'est toi qui vas continuer ce cheminement jusqu'au jour où on pourra te voir face à face. À ce moment-là, on sera celle que tu es, Seigneur. En attendant, nous sommes en marche, et on veut continuer de marcher avec toi au nom de Jésus. Amen.